France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Mexique, la musique et le monde, 27e chapitre, du Chiapas à Mexico, en passant par l'Argentine et l'Espagne de Cervantes. Bonjour à toutes et à tous. Notre épisode aujourd'hui nous conduit d'abord dans un des États mexicains les plus mystérieux et aussi les plus merveilleux au sens fort du terme, l'État du Chiapas, habité notamment par les Indiens Mayas au sud du pays, aux confins du Guatemala. Un État un peu trop oublié jusqu'à ce qu'un certain commandant Marcos le remette sous les feux de l'actualité à la fin des années 90. Une région où les forêts de sapins côtoient les jungles tropicales inextricables, où de splendides villes mayas enfouies sous la végétation ont été mises au jour, en particulier dans les années 40. Soyez tous les bienvenus. Un extrait de Thèmes et variations de Luis Sandy par l'Orchestre Philharmonique de Mexico sous la direction de Luis Herrera de la Fuente. Luis Sandy, dont la musique reste souvent associée encore aujourd'hui à la région du Chiapas, là où se trouvent les magnifiques sites mayas de Palenque, de Yachilán, qu'on connaissait bien au début des années 40. Les fouilles entreprises à Palenque en 1929 par l'archéologue danois Franz Blom sont d'ailleurs essentielles à ce sujet. 3 ans plus tard, Paul Rivet, qui dirige à Paris ce qui sera le Musée de l'Homme, envoie son adjoint Jacques Soustelle en mission pendant 2 ans dans la jungle du Chiapas, où vivent les Indiens mayas Lacondo. Puis tous deux se retrouveront au Mexique pendant la guerre. En 1946, ils sont en Europe quand ils apprennent émerveillés la découverte de nouvelles ruines dans cette jungle. Ce sont des lacandons qui ont guidé un jour un photographe américain passionné de culture maya vers ces ruines où il s'adonnait à des rituels très anciens. Les archéologues découvrent alors bouleversés des peintures murales et des fresques d'une beauté inouïe. Ils baptisent ces ruines du nom de Bonampak, les murs peints en langue maya. Les Mexicains par la suite l'appelleront affectueusement la chapelle Sixtine Maya. Dès 1948, Luis Sandy compose un ballet qu'il intitule Bonampak, inspiré par les personnages et les scènes de ses fresques. Il est représenté 3 ans plus tard à Tuxtla Gutiérrez, la capitale du Chiapas, dans un théâtre spécialement construit en plein air à la sortie de la ville. Le ballet Bonampak de Luis Sandy, qui dirigeait ici l'Orchestre Symphonique de Mexico. C'est donc en 1951 que le public a découvert ce ballet sous le ciel étoilé de la ville de Tuxtla Gutiérrez. Un spectacle haut en couleurs, car les décors et les costumes étaient inspirés des fresques mayas. C'est le peintre muraliste Carlos Mérida, d'ascendance espagnole et maya, qui les avait dessinés. Et c'est sa fille, Ana Mérida, directrice de la Jeune Académie Nationale de Danse, qui avait réalisé la chorégraphie. Le ballet évoque l'apogée de la culture maya à Bonampak aux alentours du IXe siècle, alors que les communautés doivent s'allier entre elles pour combattre leurs ennemis. On assiste à leurs rituels religieux, leurs batailles, et le ballet s'achève par un hommage au dieu soleil qui a permis la victoire. Sandy, dans l'orchestre, a ajouté des marimbas, instrument d'origine africaine arrivé au Mexique à l'époque coloniale et adopté aussitôt au Chiapas par les populations indiennes et métisses et aujourd'hui toujours aussi populaire dans la région. Ces extraits du ballet Bonampak de Luis Sandy étaient dirigés par le compositeur à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Mexico. La découverte de ce site archéologique nous offre l'occasion d'évoquer la figure d'une grande dame qui s'est battue toute sa vie pour faire connaître la culture maya, pour défendre les Lacandons et assurer la préservation des sites archéologiques, sans oublier les traditions populaires de l'État du Chiapas. Il s'agit de la Suissesse Gertrude Dubi Blum, née dans le canton de Berne, épouse de l'ethnologue de Palenque, Franz Blum. Tous deux ont vécu en pleine montagne, dans la ville de San Cristóbal de las Casas. Carmen Gaitán, la directrice du musée national Le Munal, a bien connu cette femme d'exception. Elle nous raconte.
Gertrudis Blum, qui était une Suisse, qui a connu son mari à New York, lui il est danois. Ils ont échangé une promesse de se retrouver dans le Mexique. Et ils sont mariés, ils ont fondé leur maison à San Cristóbal de las Casas, qui est une ancienne hacienda très belle. Ils ont donc ensemble fondé cette sorte de bibliothèque merveilleuse, une maison avec 10-12 chambres. Et elle a fait de cette maison une maison des études. C'est une maison où l'on pouvait arriver et loger pendant 5 jours, 15 jours, un mois. Et parmi les invités, on était assise dans cette longue table où elle était à la tête comme une grande reine avec des bijoux merveilleux, des robes natives que nous appelons les huipiles, qui ont brodé dans leur tissu des histoires de la cosmogonie native par les indigènes. Mais c'était merveilleux parce qu'on était assise à côté des anthropologues les plus importants, d'un astronaute qui venait des États-Unis. C'était comme une espèce de Nations Unies autour de cette maison et de cette table avec Gertrude. Elle organisait des caravanes pendant 15 jours dans les montagnes. Mais à ce moment-là, c'était le paradis. C'était des petits villages qui étaient tout à fait habités et contrôlés par les natifs, les indigènes.
C'était l'une des danses les plus populaires de l'état du Chiapas, le rascapetate, un nom qui pourrait évoquer la douceur du farniente sur le petate, sorte de natte confectionnée en particulier par les Indiens avec de grandes feuilles et des végétaux. Avant de quitter le Chiapas, rappelons cette courte évocation de Soustel. Quant à Paris, il se souvient de son séjour dans la jungle. Il est souvent question de la fin du monde chez les Indiens Lacandons, en quoi ils ne se distinguent pas des autres Indiens du Mexique, y compris ceux qui ont édifié les plus brillantes civilisations. On retrouve partout cette idée que notre monde a été précédé de plusieurs autres, qu'on appelle les quatre soleils. Le souvenir qui m'est demeuré de ce séjour, c'est celui des aubes encore embrumées, à l'heure où dans la clarté grise, quand l'humidité tombe des feuilles et monte du sol, les singes hurleurs saluaient le soleil de leurs longs appels métalliques du haut des arbres qui nous dominaient. Thank you. Gabriel de Vries, violon, et l'orchestre des concerts l'amoureux dirigé par Julián Carrillo dans cet extrait de Horizontes, Les Horizons, créé en 1951 à Pittsburgh sous la direction de Stokowski. Une sorte de méditation où Julián Carrillo utilise la microtonalité. À Mexico, son ami Carlos Chávez a de nouveau réussi en ces années 1946-47 à réunir dans sa saison symphonique un public très nombreux, notamment pour la création de la première symphonie de Mahler et les deux concerts dirigés par Stravinsky à la fin juillet. Il a même fait venir Darius Milhaud de Californie pour diriger ses propres œuvres à l'occasion de la création de son opéra Le Pauvre Matelot. La saison lyrique a débuté en juin avec, entre autres, Faust de Gounod interprété par la soprano française Géorie Bouet et le ténor québécois Raoul Jobin. Et elle a continué par une Valkyrie inoubliable avec Astrid Varnaï et Max Lorenz. Une saison qui a vu débuter aussi l'une des plus grandes cantatrices mexicaines, la mezzo-soprano Oralia Dominguez, notamment dans l'Orphée de Gluck. Oralia Dominguez va devenir une grande star internationale et c'est à elle que Karajan a confié le rôle d'Herda dans son enregistrement de l'Or du Rhin de Wagner. Elle est enregistrée ici à Mexico en 1951 dans Adrienne le Couvreur, lors d'une représentation au Palais des Beaux-Arts. C'est au début du deuxième acte, l'air de la princesse de Bouillon, furieuse de voir son amant lui échapper. L'enregistrement est de mauvaise qualité, hélas, mais en même temps très précieux. Il a été publié récemment à Mexico grâce à l'Université de Xochimilco. L'air Acerba Voluta d'Adrienne le Couvreur de Francesco Cilea, Oralia Dominguez mezzo-soprano, l'orchestre lyrique Union Filarmonica de Mexico, dirigé par Oliviero de Fabritis. En 1947, l'une des plus grandes stars de cinéma d'Argentine, la soprano Libertad Lamarque, vénérée non seulement dans son pays mais aussi dans toute l'Amérique latine, a dû s'exiler au Mexique. Lors d'un tournage à Buenos Aires, elle a eu le malheur de s'affronter à sa collègue Eva Duarte, qui arrivait toujours en retard et dont les caprices étaient tolérés en permanence. Celle qu'on allait bientôt appeler Evita ne le lui a pas pardonné. On ne critique pas l'égérie du général Perón. Du jour au lendemain, Libertad Lamarque n'a plus le droit de tourner, de passer à la radio ou de monter sur scène. Le 2 janvier, elle quitte le pays avec son mari, le pianiste Malherba, et c'est un voyage insensé en bimoteur, avec 3 escales, avant de se poser à Cuba, à La Havane, où les gens se sont massés pour l'applaudir sur le chemin de l'aéroport au centre-ville. Et le concert au Théâtre América est un triomphe. Elle part ensuite en tournée à Saint-Domingue, à Puerto Rico, puis à Caracas. Et c'est là que son ami, le chanteur mexicain Pedro Vargas, insiste pour qu'elle n'accepte qu'un seul engagement dans son pays, celui que lui fera le directeur du Patio, le plus prestigieux et le plus grand cabaret de la capitale. Le couple arrive au Mexique en pleine Semaine Sainte, et c'est effectivement au Patio que Libertad fait ses débuts devant un parterre très sélect où on reconnaît des vedettes comme Maria Félix, la chanteuse de tango Tita Merello, Agustín Lara, Pedro Vargas et même le violoniste Yasha Heifetz. Dans la salle, elle remarque très émue la présence du pianiste et compositeur argentin Enrique Santos Discepolo, qu'elle admire profondément, même si elle sait qu'il fait partie d'une mission artistique officielle organisée par le général Perón.
Dicen todos que me ha engañado, que mi pobreza no soporto, que no me quiere y que por otra al fin me dejó. Y yo les digo que eso es mentira, que él era bueno como lo antes, que sí me quiso y que aún me quiere. Pues será inmensa nuestra pasión. Eso es mentira. Nunca, nunca me engañó. Fue el destino que quería robarme la alegría y a traición me lo quitó. Eso es mentira. Nunca, nunca me engañó. Llorando me decía que primero moriría y olvidarse de mi amor. De pronto siento un dolor profundo, presentimiento de una traición. Entonces digo que en este mundo solo hay engaño, solo hay dolor. Pero me acuerdo de las caricias y de los besos que a mí me dio y entonces digo que no me engaña y que aún es mío su corazón. Eso es mentira, nunca, nunca me engañó. Fue el destino que quería robarme la alegría y a traición me lo quitó. Eso es mentira. Nunca, nunca me engañó. Pues llorando me decía que primero moriría que olvidarse de mi amor.
Libertad Lamarque, enregistré ici à Mexico dans un tango de la compositrice mexicaine Maria Grever et chanté, dira-t-elle, dans la grande tradition des premiers tangos avec une voix de soprano. Après le spectacle au Patio, raconte-t-elle dans ses mémoires, nous avons commencé une longue tournée à l'intérieur du Mexique et à travers les pays d'Amérique centrale. C'est alors que j'ai eu l'idée d'enregistrer un disque avec des chansons de toutes les Amériques, un album que j'ai intitulé La novia de América, la fiancée des Amériques. Ensuite, je n'ai pas arrêté de tourner des films au Mexique, notamment avec Luis Buñuel. Libertad Lamarque était une star du cinéma argentin, mais c'est au Mexique qu'elle a tourné le plus de films. Elle ne rentrera dans son pays qu'en 1982, à l'âge de 74 ans. Un beau jour à Mexico, Vicente Miranda, le directeur du Patio, a eu l'heureuse idée de l'engager avec Pedro Vargas pour qu'il chante en duo, comme ici cette querelle très humoristique de deux amants du genre « Je t'aime, moi non plus », digne d'une revue comique.
Carrefour des Amériques, Marcel Quilleveré.
Salsa, yo goce y goce y tú sufre y sufre.
Sonso, eso es lo que te crees.
Hace un año
que yo tuve una ilusión. Hace un año y hoy se cumple en este día. ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía? Que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Hoy me quedan solo crueles decepciones, pero anda ingrata, como pagas otra si te empalgará.
Mi chatita, ¿le ayudo con su carrito?
No, porque me lo rompe a usted como loca ves. Además, pues no que no.
¿Y pues qué hago?
¿Os hallaste?
El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento, pero es inútil que borracho más y más me voy a acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran. Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor.
Libertad Lamarque y Pedro Vargas. En 1947, le Mexique célèbre dans tout le pays le quatrième centenaire de la naissance de Miguel de Cervantes. Plusieurs compositeurs écrivent pour l'occasion, à commencer par l'Espagnol Rodolfo Halffter, réfugié au Mexique, qui ressent une grande nostalgie de son pays et pleure aussi la mort de son maître Manuel de Falla, qui s'est éteint au mois de novembre précédent en son exil argentin. Il compose alors trois épitaphes pour chœur, sur des textes du Don Quichotte, un peu à la manière de Juan de Encina, compositeur de la pré-Renaissance espagnole qu'il affectionnait, comme Manuel de Falla. Le Chœur National d'Espagne, dirigé par Mireia Barrera, interprète ici les épitaphes pour les sépultures de Don Quichotte et de Dulciné. Sigi, le vaillant chevalier, dont la mort n'a pas triomphé de la vie le jour de sa mort. Dulciné, qui a été la flamme de Don Quichotte et la gloire de son village, repose ici en paix.
Thank you. Quijote fue llama
y fue gloria de su aldea, y fue gloria de su aldea.
Dulcinea,
Dulcinea,
reposa aquí, Dulcinea, y aunque de carne es rolliza, la volvió en polvo y ceniza. La muerte espantable y fea, la muerte espantable y fea,
Dulcinea,
Dulcinea.
Après les épitaphes de Rodolfo Halffter, changement d'atmosphère avec Carlos Chavez, qui compose la musique de scène d'une pièce du poète mexicain Salvador Novo sur les aventures de Don Quichotte. Et c'est cette fois le galop des chevaux de Sancho et de Don Quichotte qui partent à l'assaut d'on ne sait quels moulins à vent. Un extrait de la toccata pour orchestre de Carlos Chavez et Enrique Batis à la tête de l'Orchestre Symphonique de Mexico. À présent, ce sont les deux compères, Blas Galindo et José Pablo Moncayo, les amis inséparables, qui composent, chacun de leur côté, un hommage à Miguel de Cervantes. Galindo a la belle idée de faire de son deuxième mouvement une sarabande. On sait combien Cervantes aimait la sarabande et la chaconne qu'il qualifiait de mulâtresse. Mais pour Galindo, c'est ici une sarabande tragique, étant donné la situation que connaît alors l'Espagne. Enrique Batis à la tête de l'Orchestre Symphonique de Mexico dans la sarabande de l'hommage à Cervantes de Blas Galindo. Dans les années 40 au Mexique, la zarzuela espagnole jouit encore de la faveur du public. En décembre 1946, un bateau en provenance de Santander débarque à Veracruz avec toute la troupe de zarzuelas du compositeur Federico Moreno Torroba. C'est au sein de cette compagnie que la soprano principale Pepita Embil a connu le baryton Plácido Domingo, le père du ténor du même nom, et avec qui elle s'est mariée. Les répétitions vont bon train car ils chantent un grand nombre de zarzuelas et parfois deux différentes par jour. Le 3 janvier 1947, la troupe est sur la scène du grand théâtre Esperanza Iris et crée la Caramba, une des dernières compositions de Federico Moreno Torroba. Puis un grand nombre d'ouvrages que le public connaît presque par cœur. La Caramba bénéficie d'un livret remarquable, dont l'action se passe à Madrid au XVIIIe siècle. Il raconte les amours tumultueuses de Maria Antonia Vallejo Fernández, une chanteuse flamenca de grand renom qu'on appelait la Caramba. Parmi les personnages importants, on trouve entre autres le peintre Goya et la duchesse d'Albe. Pepita Embil chante ici l'air de la Caramba. Je suis Maria Antonieta, la Granadina, la fille de Grenade. La soprano Pepita Embil, la mère du ténor Placido Domingo, dans la Tonadilla de la Zarzuela, la Caramba de Federico Moreno Torroba. Après la capitale, toute la troupe part en tournée à travers le Mexique avant de rejoindre la Havane à Cuba. La compagnie de Moreno Torroba retourne au Mexique début janvier 1948 et embarque bientôt pour l'Espagne. Mais sans Pepita et sans Placido père, qui reste à Mexico, où ils fondent leur propre compagnie. Leurs enfants, Placido et Maria José, se souviennent encore aujourd'hui des caisses de nourriture que Pepita envoyait à la famille restée au pays, dans l'Espagne exsangue de l'après-guerre. En octobre 1947, alors que tous les deux sont encore à la Havane, une jeune chanteuse qui vient de débuter dans les boîtes et cabarets de Mexico débarque à Cuba. Elle a 28 ans, le même âge que Pepita Embil, et elle s'appelle Chavela Vargas. Née au Costa Rica et délaissée par sa famille, elle s'est réfugiée au Mexique dans sa prime adolescence. Après des débuts très difficiles, elle se produit bientôt avec succès dans les cabarets de la capitale, en s'accompagnant à la guitare, vêtue d'un superbe poncho aux couleurs vives. À la Havane, Elle chante comme Libertad Lamarque sur la scène du Théâtre América au sein d'un spectacle de variété. L'une des chansons qu'elle interprète est celle d'un poète cubano-espagnol dédié à une femme cubaine d'exception, Macorina, restée célèbre pour son combat pour le droit des femmes. Macorina était la première cubaine à obtenir un permis de conduire et elle est même devenue une courtisane de luxe. Elle n'a jamais cessé de lutter contre le machisme ambiant. Pose ta main ici, Macorina. Ponme la mano aquí. Au petit matin, tu t'en vas et tu me laisses seule. Seul avec ce parfum qui m'emportait avec toi au rythme du danson.
Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya. Buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. Corina, ponme la mano. Tus senos, carne de Anón, tu boca, una bendición de Guanábana madura. Y era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí.
Chavela Vargas, accompagné ici par le grand guitariste Antonio Briviesca. On doit à Pedro Almodovar d'avoir fait inviter Chavela Vargas à l'Olympia de Paris en octobre 1994. Pour l'heure, Chavela, après plusieurs mois, dit-elle, passés à Cuba, rentre à Mexico, auréolé de son succès havanais. Les artistes cubains viennent de plus en plus nombreux se produire au Mexique. Le chanteur et compositeur Benny Moré a décidé, lui, de s'y établir. Il ne cessera de louer la qualité des orchestres mexicains. Un de ses premiers succès avec eux, c'est la guaracha cubaine que le trio Los Panchos avait rendu populaire au Mexique, Me voy pa'l pueblo. J'ai assez travaillé dans les champs, je m'en vais au village pour m'amuser un peu, tout seul, car ma femme n'aime pas faire la fête. Allez donc savoir pourquoi. Nous l'écoutons ici enregistré avec Mercedes Valdés à son retour à Cuba, au début des années 50.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar. Con esa guajira que no le gusta el guante de queso.
llevo pa'l pueblo a tomarme un galo. Y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. La, 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 la.
Une guaracha cubaine pour quitter le Mexique aujourd'hui. Le Mexique que nous retrouverons bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, disponible en podcast. Attachée de production, Nelly Portal.
À réécouter sur francemusique.fr.